Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureuses et heureux de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est une heure d'entretien chaque soir avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, avec la peintre Claire Tabouret.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
La question c'est, y a-t-il quelque chose qui cesse de lutter quand le cœur s'arrête? Le musicien Rachita est mort d'une crise cardiaque. Il avait mouillé la chemise pendant des années de musique, de danse, de défense, de paroles politiques, lutté contre les cases trop faciles et les costumes trop serrés. Sur scène, je l'ai vu littéralement dans tous ses états, mais jamais sans énergie, et c'est précieux. C'est précieux l'énergie vitale qu'on met en circulation, quels qu'en soient les bas-fonds, colère, désir, désordre, amour.
Oh, écoutez-moi, camarade. Laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que...
Je fais ce détour pour arriver à votre peinture, Claire Tabouret, car lorsqu'on entre dans la galerie Almine Reich à Paris, c'est cela que votre peinture met en branle. L'énergie vitale des corps qui luttent, s'empoignent ou s'étreignent. Les bas-fonds dont je parle à l'instant sont luminescents, mais il est difficile de dire si c'est une lumière toxique, malade ou infiniment joyeuse et amoureuse. Parfois la toile augmente le sentiment de dualité car les couples y existent sur des fonds symétriques à la matière des formes de Rorschach. L'exposition s'appelle « I'm crying because you're not crying »,« Je pleure parce que tu ne pleures pas ». Bonsoir Claire Tabouret.
Bonsoir.
Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant.
Avant la lutte, avant qu'elle ne devienne sport, bon, et était quand même utilisé à d'autres fins. C'est-à-dire quand même dans un monde où la violence était installée, où certaines communautés quand même, pour vivre, devaient se défendre, il fallait donc au sein de la société préparer les hommes valides au métier de la guerre. Donc ça se faisait au sein d'un village où les hommes valides étaient là, les anciens étaient là, ils nous inculquaient quand même le métier de la guerre, c'est-à-dire pour apprendre à lutter, parce qu'en fin de compte, avant l'arrivée de la bombe atomique ou bien bon, des mitrailleuses et tout quand même, je pense que la finalité bon, de tout combat était bon, le corps à corps. On l'a vu dans l'époque antique, dans l'Antiquité, ou entre Romains et Grecs, où, bon, où les gens avaient des armes, mais finalement, la finalité, c'était le corps à corps.
Quand tu marches, tu cries son nom.
La finalité, c'est le corps à corps. On entend ici une archive de 1995 d'Omar Olefay qui parle de la lutte sénégalaise, qui est une lutte très particulière, Claire Tabouret. Mais moi, ce sont ces images-là qui me sont revenues lorsque je suis entrée dans la galerie et que j'ai découvert vos tableaux, tout simplement parce que j'en ai un jour vu et que ça a réactivé ces corps en lutte. Vous, vous êtes partie de quelles images de corps en lutte, réels ou fictifs ou représentés d'ailleurs ?
Je pense que la première chose qui a été une impulsion pour cet ensemble de tableaux, ça a été l'envie de peindre des corps qui ce mouvement de force contraire en fait entre une attirance et quelqu'un qui essaye de tirer à soi et l'autre qui essaye de se libérer. Ce moment déchirant de destin qui se sépare, et m'est venu en tête la lutte, effectivement la lutte sportive, où pour gagner, il faut attirer son partenaire, son adversaire à terre, et pour absolument pas perdre, il faut se libérer de cette étreinte. Et donc c'est vrai que dans la lutte sportive, il y a des moments, si on fait un arrêt sur image, qui sont d'une beauté époustouflante, où ces deux corps enlacés sont quasiment en train de... qui ont une force érotique, amoureuse... dans le corps à corps. Et donc ensuite j'ai aussi, c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point la lutte était présente dans toutes les sociétés, dans tous les pays, sous des, il y a des mouvements qui se retrouvent. Ensuite ce qui change, on va dire, c'est les costumes, la musique, la signification parfois, et je suis tombée un peu par hasard sur la lutte en Turquie, où c'est vraiment ces corps d'hommes à tous les âges en fait, dès l'enfance jusqu'à des hommes beaucoup plus âgés, et qui se recouvrent d'huile pour rendre l'exercice encore plus difficile, puisque les corps glissent et qu'il y a peu d'endroits d'accroche. Et donc le seul endroit d'accroche, c'est vraiment l'entrejambe dans le pantalon, là où il y a moins d'huile. Donc ça donne en plus cette ambiguïté-là avec ce rapport au sexe.
Lorsque vous dites j'ai découvert cette lutte en Turquie, vous avez travaillé à partir d'images, vous avez regardé des vidéos, des photographies.
Oui, je découvre les choses depuis ma bulle dans mon atelier, c'est-à-dire en surfant sur Internet, en cherchant des images de corps, parce qu'ensuite je les déplace dans mon monde de la peinture. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a toute une recherche iconographique pour une question de posture. Mais je pense qu'ensuite je fais dire à ces corps une autre histoire qui est la mienne. Ça passe évidemment par la manière de le peindre, par les couleurs, par ces fonds dont vous parliez qui évoquent les taches d'encre de Rorschach, où ça crée des effets miroirs. Donc d'un coup, ces deux corps face à face, est-ce que ce serait pas toujours le même corps qui se fait face, qui se dédouble et puis qui devient quatre puisqu'il se regarde dans le miroir. Et puis ensuite, il y a dans cette exposition-là, ce qui est pas toujours le cas dans mon travail, mais c'est vrai qu'il y a la question des titres qui aussi guide de manière, je pense quand même assez ouverte, c'est pas autoritaire, mais donne des indices en fait d'une atmosphère et d'une histoire, d'une narration sous-jacente.
À commencer peut-être par le titre de l'exposition en elle-même, qui est en anglais mais qui dit « Je pleure parce que toi tu ne pleures pas ». C'est vrai qu'en écoutant, il se trouve que voilà, le hasard des calendriers fait que je prononce ces mots-là juste après la chanson, la reprise de Rachida, de cette magnifique chanson de Mohamed Mazouni, qui parle d'une rupture, d'un chagrin d'amour. « Je pleure parce que toi tu ne pleures pas » était une narration ouverte vers quoi pour vous, une proposition vers quoi ?
Alors pour moi au départ c'était aussi... très lié à la musique, à la chanson d'amour. Je me disais, c'est quand même fou, parce que quand on pense à la musique, 90% a été écrit pour des relations amoureuses, on tombe amoureux, et puis alors le chagrin d'amour encore plus. Et puis la littérature, pareil. Et je me disais, mais en peinture, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi ? Alors que c'est une force, c'est une douleur immense, qui doit être transcendée pour survivre. Alors quand on est artiste, on prend les pinceaux. Et donc j'étais presque étonnée et je me disais, mais est-ce que je pourrais réussir à faire une peinture qui fasse pleurer comme une chanson d'amour ? Et je pense que dans mon travail, il y a un côté très obsessionnel, c'est-à-dire que je vais rentrer dans quelque chose, et puis il y a la question de la répétition dont on pourra parler tout à l'heure, mais je pense que cette exposition, c'est presque une première étape, parce que finalement, dans la rupture, il y a plusieurs étapes, donc là, on est encore peut-être dans l'état de stupéfaction, de... disbelief, quand on ne veut pas croire, voilà, et qu'on refuse, donc on s'accroche, et il y a de la colère aussi dans l'exposition, il y a beaucoup d'énergie. Et donc ce titre, pour moi, il est aussi lié à une autre histoire, parce que c'est une exposition qui est construite en deux chapitres. Donc le premier chapitre chez Almin Rech, et le second chapitre dans l'ancien atelier de Picasso, où en fait Picasso a réalisé de nombreuses sculptures en plâtre. Et donc pour moi, c'était l'occasion déjà de me confronter à ce matériau, le plâtre que je connaissais pas, mais aussi de, évidemment, me confronter à la figure de Picasso. Et la première chose auquel j'ai pensé en me disant « Oh là là, moi, je vais mettre mes peintures dans ce lieu », j'ai pensé à La Femme qui pleure, à toute cette série de portraits qu'il a fait de Dora Maar, qui sont absolument sublimes et terribles à la fois. Et mon premier mouvement, c'était vraiment de me dire qu'une de mes, peut-être, de mes premiers combats, de mes premières forces contraires, de mon premier dédoublement à moi, ce serait que je suis depuis toujours les deux. Je suis à la fois cette femme qui pleure et je suis aussi ce peintre qui, face à cette douleur énorme, à cette intensité-là, a le réflexe de le transcender en peinture. Donc ce combat qu'on découvre dans l'exposition entre ces deux corps, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi ces deux mouvements-là.
J'en rêve de cette manière-là, le peintre qui peint et la femme qui pleure.
Mince, j'ai dit ça comme ça. Peut-être, en tout cas, par exemple, j'ai l'impression que Picasso, pour parler de la douleur amoureuse, a toujours représenté des femmes qui pleurent. Pour parler de ma propre douleur amoureuse, il se trouve que j'ai peint des hommes qui se battent. Et je crois que dans les deux cas, il y a une identification. Il peint les larmes qu'il n'a pas, et je peins le combat que je n'ai pas, que j'ai perdu. Et je pense que dans ce titre, en fait, le personnage principal, le jeu, pour moi, c'était de dire c'est Dora Maar qui parle, c'est cette femme, c'est la femme du tableau qui prend la parole et qui devient le centre. Et ça, pour moi, c'était très important.
Ça dit aussi, si on dit que ce sont les mots de Dora Maar, que le peintre ne pleure pas et qu'il est dans une autre force, qu'il est dans une autre énergie. Quand on rentre, c'est une énergie dans l'exposition, c'est une énergie vitale qui est indécidée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en effet quels sont les bas-fonds, mais ça vibre très très fort. En tout cas, vous vous dites, peindre, ce n'est pas pleurer, quoi. Ce n'est pas être de ce côté-là l'énergie.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est... Moi, je suis les deux. Je suis, mais c'est vraiment ça. Et c'est pas le même mouvement du tout. Il y a d'un côté les larmes et la mort, et d'un côté l'énergie vitale et la transcendance de la peinture qui me sauve depuis toujours.
Lorsque vous vous renseignez justement ou quand vous vous documentez, ce sont des choses qui sont très distinctes. Ce sont des temps qui sont très distincts. Par exemple, aller chercher des vidéos ou des images de lutte en Turquie. Et ensuite peindre, ou ça peut être confondu
non,
et votre recherche continue?
C'est confondu, parce que c'est vrai que c'est presque comme un... Des fois, j'ai l'impression que c'est un moteur de voiture qui se met en route, ou d'un Boeing, ou de quelque chose. C'est qu'il y a une excitation, ensuite il y a une frénésie, un emballement de moi, de mon corps, de mon esprit dans l'atelier. J'ai trouvé quelque chose qui m'obsède par-dessus tout. Et donc après, je développe ça et donc je me dis tiens, mais j'ai envie de faire des corps où il n'y a qu'une tête, où j'ai envie de faire un corps où ça représente, ça pourrait être une forme de décapitation, où ça pourrait être une forme de justement d'étreinte. Et donc après je vais chercher ces corps, je vais chercher d'autres arrêts sur image qui vont m'aider à comprendre des postures, des muscles. Et tout se joue aussi ensuite beaucoup dans les regards. Alors c'est très étrange parce que pour la première fois je fais une exposition où il y a très peu de regards. Il y a très peu de visages, puisque c'est surtout des corps et les regards sont enfouis, souvent sous le corps de l'autre. Mais les quelques regards qu'on peut capter, je pense vraiment déplacent et sont vraiment une invention qui naît au cours de la peinture.
Peut-être vous faites référence au fait qu'une partie de votre travail a beaucoup montré des visages de face, ou bien seulement des visages ou bien des corps, et où la question du regard était... souvent adressés, ou même quand on les disait absents, ces regards, ils étaient souvent là. En effet, là, la singularité, je trouve la question de la figure, elle passe davantage par le dessin des muscles et la silhouette et le mouvement qu'en effet par le regard. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure de la lutte en Turquie en disant on voit des corps de tous les âges. Et en effet, moi, ça m'avait marqué quand, par exemple, un projet en Seine-Saint-Denis mené par Corinne Miret et sa compagnie sur les sports de combat et les luttes. Et il y avait en effet plein de jeunes garçons, de jeunes filles. Et il y avait la question de la transmission, que c'était aussi une question de lien. Et votre travail, Claire Tabouret, pose la question de qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous déchire, y compris dans la famille. Est-ce que vous avez l'impression que la question du lien, elle se poursuit dans ce travail-là?
Oui, je pense que le lien entre les... dans les relations, mais aussi la question de la fusion, de la dangereuse fusion qui était déjà très présente dans la question du groupe, dans ces grands portraits de groupe où on sentait ces personnages presque ensevelis par la masse, à la fois effectivement la masse des cheveux, la masse des tissus qui les habillaient, un habit qui se terminait, commençait l'habit du suivant. Donc il y avait comme
qui les rendait indistincts presque.
Voilà, et en même temps, il y avait une question de résistance, parce que ça se situait vraiment, pour le coup, dans les expressions des personnages qui dégageaient un feu brûlant à l'intérieur, un désir d'échapper à cette camisole quasiment. Et donc ici, c'est plus la question de la fusion amoureuse et de son danger aussi. J'avais lu quelque part, quand un couple ne fait qu'un, oui, mais lequel des deux ? Avec cette idée-là qu'il y a quand même une lutte de pouvoir et qu'il y a, voilà, y en a un qui pleure et l'autre qui ne pleure pas. Donc.
Je vis davantage dans la danse que dans n'importe quelle composition. C'est mouvementé, c'est expressif, c'est rythmique, ça crée une musique que j'aime bien, la musique que j'aime bien. C'était particulièrement moi, cette danse. Je n'ai pas eu besoin de me chauffer, seulement j'ai marché sur des éléments vivants. Il y a deux façons de comprendre les choses. Vous pouvez voir d'une façon statique une danse, parce que ça dépend si vous la voyez dans l'esprit, si vous la composez comme ça ou si vous la composez physiquement avec en dansant avec vos membres. La statique n'empêche pas du tout le sentiment du mouvement. Et c'est un mouvement qui est placé à un degré d'élévation qui n'entraîne pas les muscles des spectateurs, mais simplement leur esprit.
Une archive d'Henri Matisse, on est en 1951, il parle évidemment de sa grande œuvre qu'est la danse. Peut-être une première réaction, Claire Tabouret, à cette archive-là.
En fait, c'est marrant parce que je l'ai beaucoup regardé, l'œuvre La Danse, puisque c'est vrai que de la lutte à la danse, il n'y a qu'un pas. Et c'est vraiment la question du langage du corps. D'un coup, quand on disait les visages disparaissent, on voit des muscles, on voit des dos, on voit des fesses, et pourtant ça exprime différents états. Il y a de la tendresse, il y a la colère dont on parlait, il y a de l'énergie. Dans la danse de Matisse, peut-être moi, ouais, ce qui me frappait, c'est la joie et la simplicité qui se dégagent de cette peinture, et que je pense que c'est une vie de labeur pour arriver à cet état-là. Et en ça, je pense que l'exposition que je fais est bien adolescente par rapport à sa danse.
Parce qu'elle est quoi ? Elle est moins tranquille, elle est moins simple.
Elle est intranquille. Et puis, mais en même temps, je pense qu'il y a une grande libération du geste aussi dans cette exposition. Donc en ça, pour moi, elle représente une étape et une étape réjouissante et peut-être une maturité par rapport à des choses antérieures. Au niveau des fonds, au niveau de la manière de peindre, au niveau des supports, il y a chaque toile est comme une réinvention d'un sujet. Et pourtant, on est dans une ronde aussi, puisqu'on est dans cette ronde où on reprend chaque toile de corps qui s'empoignent d'une manière, donc avec une sorte de série. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, le côté sériel, la répétition d'un motif. En ça, qu'on épuise un sujet, mais c'est à chaque fois une renaissance. Enfin, c'est à chaque fois un renouvellement, puisqu'à chaque fois, il se rejoue cette confrontation des deux corps, et on peut le lire de manière très 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 différente, dans une sorte de grand éventail d'émotions. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup regardé Edouard Munch, qui a fait des sujets qui reprend, et alors il y a un baiser magnifique, c'est une toile qui s'appelle Le Baiser, donc c'est les deux visages ne deviennent qu'un pour le coup, et puis de ce baiser là il glisse, donc il en peint plusieurs. Il y a aussi tout le travail sur papier avec la lithographie qui invite à cette travail de série. Il glisse jusqu'au vampire, et ça j'aimais aussi beaucoup cette idée là de la tendresse qui devient cannibale en quelques coups de pinceau. Et puis en parlant de la danse, c'est vrai que j'ai aussi repensé à une œuvre dansée que j'ai vue il y a quelques années de Dimitri Chamblas et Boris Chermatz, À bras le corps. Et donc ça, c'est une chorégraphie qu'ils ont composée dans les années 90, je crois en 93, et qui se sont engagés à rejouer tout au long à redanser en fait tout au long de leur vie, donc avec les corps aussi qui changent. Et en parlant une fois avec Dimitri Chamblas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Los Angeles, il me disait comment c'était frappant à quel point cette même danse, suivant le contexte dans lequel elle est jouée, les années 90, les années SIDA, les pays, les lieux, à quel point les mêmes gestes peuvent prendre des significations extrêmement différentes. Et évidemment, leur corps aussi, qui change.
Peut-être pour dire que c'est un duo où, en effet, il y a quelque chose de la lutte, en tout cas de l'affrontement aussi, qui n'est pas étranger à la danse amoureuse. Et que ce sont deux corps, en effet, que le spectateur, s'il a la chance de les voir danser plusieurs fois, peut aussi voir vieillir, bouger, évoluer, quoi.
Oui, et c'est vrai qu'on est à la fois il y a des moments où on est dans la tendresse, dans le soin de l'autre. Il y a des moments où on est dans la lutte et dans l'opposition. Et puis il y a la fatigue aussi, la fatigue du corps, puisque c'est une œuvre qui est très physique, leur danse. Et ça, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'avais travaillé l'année dernière en représentant des chercheurs d'or. Alors c'était peut-être lié à mon exil en Californie, une sorte d'ambiance par rapport au désert californien, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les chercheurs d'or qui n'avaient pas trouvé d'or et de représenter ce moment de presque de vacillement, de doute entre la poursuite ou la fin. Et donc je pense aussi à, par exemple, Jean-François Millet, qui est quelqu'un qui a beaucoup représenté les corps fatigués. Donc toutes ces manières d'habiter son corps, c'est vraiment... Je pense que oui, je suis assez proche de la danse.
Et moi, j'ai aussi pensé à la danse de Matisse parce qu'il y a des collages, des papiers découpés qui sont assez imperceptibles si on n'y fait pas attention, ou alors extrêmement présents si on décide de leur donner beaucoup d'importance dans vos tableaux, Claire Tabouret. Et ce découpage-là du papier m'a semblé que c'était un pas de plus fait vers la silhouette, qu'il y avait vraiment une invitation à considérer qu'il y avait quelque chose d'important là, dans la silhouette.
Oui, pour moi, ça devient des silhouettes, mais ça devient aussi des ombres. Et c'est vrai que la question du soleil est beaucoup là dans les titres. Et des fois, il ne reste plus que des ombres. Et les ombres, pour moi, ça a à voir avec ce qui reste, en fait. Et la peinture, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ne va pas s'éteindre? Cette lumière aussi particulière qu'il y a dans mes tableaux, elle parle de ça. Souvent, j'ai cette image ou cette sensation qui serait la chaleur sur un rocher après une longue journée de soleil, et puis la nuit tombe. Et ce qui reste, c'est cette chaleur, en fait.
D'ailleurs, ces collages-là, ou bien certaines, comme on pourrait dire, mémoires de mouvements donnés par la peinture, laissent entendre que vous étiez là pendant tout le mouvement. Enfin, je ne sais pas comment dire, que comme si votre peinture, certes, c'est un moment de la lutte, ou un moment du combat, ou un moment de l'étreinte, mais il n'est pas inconscient de tout ce qui a eu lieu avant. Et comme si votre peinture gardait les traces de ça.
C'est vrai qu'il y a la mémoire aussi, dans la mémoire des peintures d'avant, mais aussi la manière dont je travaille, avec beaucoup de recouvrements. Donc, ce qui est intéressant pour ceux qui pourront voir l'exposition en vrai, c'est toujours de regarder les tranches des tableaux. Parce que sur les tranches, en fait, sur les côtés, on peut vraiment voir une sorte d'indice, justement, de tout ce qui a pu se passer. Et ça se construit toujours sur quelque chose.
Tout à l'heure, vous parliez de la répétition et de reprendre un motif comme pouvoir reposer encore une question, se redire, tiens, alors ça va être quoi ces deux corps en lutte? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que vous vous dites, bon, peut-être là, il y a suffisamment de tableaux et j'ai épuisé ma question?
En fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais parce que c'est plus des fondus enchaînés. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, un tableau amène le suivant. Ensuite, une exposition, c'est quasiment... chaque fois une nouvelle narration, un nouvel ensemble. Mais déjà, moi, cette exposition-là, qui est encore tiède comme le rocher, elle m'amène déjà à la suivante. Je suis déjà excitée du prochain chapitre. Donc il y a rarement des ruptures, en fait. Il y a beaucoup de glissements, de fondus enchaînés. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a certaines étapes qui se passent dans l'atelier, dans le secret de l'atelier, où voilà, je vais glisser d'un tableau à un autre et puis à un autre. Je vais pas forcément dévoiler toutes ces étapes. Donc, par moment, on peut se dire, tiens, waouh, elle a sauté d'un rocher à un autre. On n'a pas vu ce grand saut, mais entre les deux, il y a eu beaucoup, beaucoup de petites étapes, de petites marches, de petites.
Ça veut dire que vous ne respirez pas d'un tableau à l'autre? C'est une continuelle question.
Ouais. Oui, il y a vraiment une frénésie créatrice qui m'interroge aussi, parce que c'est un rythme effréné. Puis à chaque fois, c'est quand même... Il y a une idée du risque, alors tout est relatif, hein, mais il y a quand même... moi, j'ai toujours l'impression que je saute du sixième étage sans parachute. Enfin, quand c'est pas de la répétition dans le sens que je suis pas dans le connu, en fait. À chaque fois, je déplace, c'est une aventure, voilà.
Young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. I just wanna feel liberated, I just wanna feel liberated, if I fuck this model, and she just bleached her asshole, and I get bleach on my t-shirt, I'ma feel like an asshole. I was high when I met her, we was down at Tribeca. She get under your skin if you let her. She get under your skin. I don't even wanna talk about it. I don't even wanna talk about it. I don't even wanna say nothing. Everybody gon' say something. I be worried if they say nothing. Remind me where I know you from. She looking like she owe you something. You know just what we want. I wanna wake up with you in my morning. You're the sun of my morning, babe. Nothing in the water.
Can I say
it? Beautiful morning. You're the sun of my morning, babe. Nothing in the water.
I just wanna feel liberated. I just wanna feel liberated.
L'importance de la couleur ne doit pas être sacrifiée, puisque c'est un tableau violemment coloré, n'est-ce pas, et qu'on ressent immédiatement à la fois comme très dessiné et comme très violemment coloré. Alors, dans certains tableaux de Picasso, il y a des délicatesses de couleur qui n'apparaissent pas ici. Il y a pourtant ici des tons très rares, n'est-ce pas, comme par exemple le ton du manteau, qui est un brun violacé, n'est-ce pas, une couleur difficile à obtenir et rare, et qui s'oppose aux couleurs quasi pur, du vermillon, du jaune et du bleu de la face. Il faut aussi remarquer, du point de vue de la couleur, le fait qu'il est placé dans le haut du visage de la femme, autour des yeux et entre les yeux, des taches mauves qui viennent évidemment en complémentaire du vert et du jaune qui s'y opposent le plus brutalement qu'il soit, n'est-ce pas ? Cette brutalité, d'ailleurs, ajoute à la force du tableau. Je ne l'emploie pas du tout comme un mot défavorable. Cela ajoute à la puissance de l'expression, n'est-ce pas ? Il y a évidemment aussi une partie pour les noirs, tout à fait différent que, par exemple, les noirs chez Manet. Il y a un très beau noir qui encadre la partie droite, donc gauche de la figure, n'est-ce pas ? Un très, très beau noir. Voilà à peu près ce que je peux dire. Évidemment, tout cela est lisible à la longue. Je pense aussi que ce tableau doit être regardé assez longuement et qu'il sera lisible pendant très longtemps, enfin, et qu'on pourrait le décrire encore beaucoup plus précisément. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de mon impression.
C'est le poète Francis Ponge qui parle de La femme qui pleure de Picasso. C'est une archive de 1967 et on retrouve là la grande précision de son regard et de sa description. Peut-être pour revenir avec vous, Claire Tabouret, sur ce tableau-là et aussi sur ce que Ponge dit de la brutalité des couleurs. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très marquant dans cette exposition-là. Je dirais d'autant plus quand on a la chance de le voir au calme dans une galerie pas très peuplé, où les murs sont extrêmement blancs et où il y a beaucoup d'espace. Il y a vraiment quelque chose de la brutalité, mais joyeuse, de la couleur qui existe. Comment l'avez-vous pensé ?
C'est très intuitif et impulsif, hein, les rapports d'atelier de couleurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui joue beaucoup, je crois, c'est comment je commence un tableau. Donc là, je ne commence pas un tableau avec une surface blanche. En général, j'applique une première couleur qui me sert de terrain. C'est sur ce terrain que je vais construire. Donc là, c'est un désir. Voilà, ça passe beaucoup par le désir. Un désir d'orange, un désir de sombre. Il y a quelques toiles qui sont sur des fonds noirs, ce que je fais moins souvent. En général, je pars de couleurs très vives et puis ça se construit et puis ça s'assourdit au fur et à mesure. Là, j'ai cherché à chaque fois à décaler, en fait, à absolument pas être dans l'habitude d'un geste ou d'une construction. Donc, certaines toiles, voilà, étaient des surfaces noires au départ. Certaines toiles avaient des surfaces fluorescentes, des jaunes, des oranges. Il y en a d'autres qui sont peintes sur des tissus récupérés. Donc, il y a un vieux drap. J'ai toujours des bouts de chiffon, des choses pour laver mes pinceaux. Et donc, j'ai une sorte de grande boîte où je tire un bout de chiffon et puis je tire ce morceau. Et c'est un très beau bleu. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais juste essayer de faire un personnage, et en peignant dessus, sans tendre la toile, juste ce morceau à terre, je me rends compte qu'il y a des petits palmiers qui apparaissent, et en fait c'était brodé dans le motif de ce vieux tissu, donc ça m'a plu comme aussi une sorte de clin d'œil, et puis je voulais faire un duel au soleil, donc je me disais, ben voilà, c'est une toile qui est pourtant très sombre, qui est dans des bleus violacés, et donc il y a des petits palmiers qu'on voit quand on s'approche, qui sont en relief. Il y a aussi le grain de la toile qui modifie beaucoup le mouvement de la peinture, c'est-à-dire qu'il y a des surfaces qui sont extrêmement lisses, très soyeuses, quasiment comme du papier ou le grain de la peau. Et ça, c'est plus celle que j'ai utilisée pour plier les toiles en deux, donc où je prépare des fonds sur le sol de mon atelier, je plie la toile en deux pour créer cette tache justement très... qui évoque beaucoup les tests de Rorschach. Et il y a d'autres grandes peintures qui sont, elles, pour le coup, réalisées sur des toiles très rugueuses, où là, il faut avoir un rapport beaucoup plus physique. On ne peut pas avoir une précision, une douceur. Donc, on est plus dans le combat. Donc, on va dire que presque la sensation au toucher va influencer le rapport des corps qui vont se poser sur la toile.
Qu'est-ce que vous avez appris au fur et à mesure que ces toiles augmentaient leur nombre et que vous avanciez dans le fait de peindre des corps en lutte, sur la lutte elle-même ou sur la peinture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Parce que d'un combat, on sort pas seulement vainqueur et vaincu. On sort... Ah. Ouais, on sort... moi, je pense qu'on sort aussi augmenté d'un savoir.
Vous avez raison. C'est vrai, non, vous avez quand absolument raison. Non, c'est merveilleux ce que vous dites. Je suis absolument d'accord. Pour moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a une telle peur de perdre, quand on déplace ça à tous les combats, que finalement, quand on perd une fois et qu'on survit, eh ben, il y a une libération. C'est peut-être ça que j'ai appris, moi, à travers l'épreuve de cette exposition-là. C'était avoir moins peur et à me sentir beaucoup plus libre. Et donc, en ça, il y a une célébration. Moi, c'est une exposition qui me rend extrêmement heureuse.
Sautillante, moi, je me suis dit. Ça rend sautillant dans cette exposition. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais alors, du coup, ça veut dire que si on déplace ça, le savoir acquis dans cette épreuve d'exposition, du côté de la peinture, il y a une libération de votre peinture?
Mais c'est comme des portes qui s'ouvrent. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ça s'arrête jamais, qu'il y a une sorte aussi de frénésie de peindre, une urgence absolue. C'est vrai que je cours après le temps. Donc, j'ai l'impression d'avoir ouvert beaucoup de portes et que maintenant, il faudrait prendre le temps d'aller explorer dans chacune de ces nouvelles pièces. Et donc, c'est ça qui va donner toutes les prochaines expositions. Par exemple, ce rapport à l'abstraction, aux toiles inversées, puisqu'on parlait de miroir tout à l'heure. Donc, des fois, il y a le miroir entre les deux personnages, mais qui se dédouble et deviennent quatre. Et donc, on peut regarder la toile par en haut ou par en bas. Ça change complètement le rapport à l'espace. Jusqu'à présent, j'étais dans des espaces où il y avait le sol et puis le ciel, on va dire. Et les personnages avaient les pieds. Il y avait vraiment ce côté ancré dans le sol. Alors que là, l'espace a disparu. On est dans un espace mental encore plus abstrait. Donc, il y a beaucoup de choses à développer là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer dans la question des supports aussi. J'ai de quoi faire.
Ça me fait penser, lorsque vous parlez de la modification des fonds et peut-être de leur clarté vers un espace qui est plus mental, à ce qu'écrit Rilke dans la mélodie des choses, dont les figures peuvent se détacher d'un fond doré, notamment dans les icônes. Et il y a vraiment, plus l'exposition avance, Claire Tabouret, et plus en effet on a l'impression que les corps viennent vers nous d'une manière brutale, bougent, et certainement à la faveur de ces fonds qui sont symétriques et qui reprennent les, enfin en tout cas le procédé des encres du test de Rorschach. Comment vous êtes allé vers ça, vers cette toile pliée en deux qui, de sa manière, en fait, annule l'espace?
Ce qui m'intéressait, c'était la question du double, puisque c'est vrai qu'on se dit peut-être qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me suis déplacée du couple à ma propre lutte dans l'atelier. On peut aussi penser au boxeur qui s'entraîne donc face au miroir. Shadow boxing, c'est encore une question d'ombre. Et donc du coup, de reprendre cette thématique du double dans le fond, c'était ça que ça me permettait de plier la toile. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi dans ces tâches que ça crée, c'est l'ambiguïté et le côté extrêmement organique. On dirait des bouts de corps en fait, des bassins, des plexus, des je sais pas quoi. On est ni dans l'abstraction ni dans la figuration pour le coup dans ces tâches.
En tout cas, ce qu'on quitte. Et peut-être ce qu'on croyait avoir à traiter au départ du couple ou du duel, assez vite on le quitte ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, la lutte, elle devient aussi assez générale. Qui se bat avec qui? Pourquoi? Est-ce qu'on se bat avec soi-même? Dans ce cas, pourquoi? Est-ce qu'on se bat avec la peinture? Dans ce cas, pourquoi? Est-ce qu'on se bat avec l'art dans l'absolu? Dans ce cas, pourquoi? Vous disiez tout à l'heure, Claire Tabouret, je m'interroge sur la frénésie de création. Là aussi, il y a un autre combat qui s'affiche dans cette exposition.
Complètement. Et après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'ouvrir toutes ces questions. C'est vrai que j'ai souvent pensé comme ça, que je ne cherchais pas à apporter des réponses, mais que si ça pouvait poser des nouvelles questions, ou les poser autrement, en tout cas, renouveler les questions. Mais j'ai l'impression que ces peintures-là sont aussi des fenêtres ouvertes sur des questions. Hey, this life is near. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux. But sometimes he comes to me in the dead of winter, dead of night. He's all that I can see. Hold on to me. We'll be right back.
comes shivering. What was all that for? Heaven was the battle, baby, you and won the war.
Je crois que la lumière doit sortir de la toile. La lumière doit venir doit se trouver à l'intérieur de la toile, pas une lumière projetée sur la toile. Et ça peut-être arrive, si j'ai réussi, je ne sais pas, mais si arrive avec les superpositions de transparence. Je travaille plutôt avec la transparence, pas avec la matière. Parce que la matière ça me, si je pourrais faire sans la matière, serait formidable. Je voudrais peindre avec les yeux fermés, par exemple. C'est comme ça, voilà. La matière, je n'aime pas la matière pour la matière. La matière peut être très belle. Ce n'est pas que j'ai raison, mais chacun s'exprime comme il peut et comme il sent. La matière, c'est une très belle chose, mais il manque, voilà, la lumière. La lumière, vous pouvez l'avoir seulement, comme vous dites, noire, lumière noire, d'un fond noir. Avec les transparences, peut-être on peut faire sortir la lumière.
C'est la voix de Joran Mujic, en 1988, au micro de Jean Dev, sur France Culture, Claire Tabouret. Avec la transparence, on peut faire sortir la lumière. Et il dit, j'aimerais vraiment peindre les yeux fermés. Ça m'a fait penser à des choses que vous avez fait auparavant, des yeux bandés, des silhouettes en effet, où la question du regard dont on parlait tout à l'heure est complètement obstruée ou modifiée, et au boxeur aussi dont vous parliez, qui a une capuche avant d'entrer au combat pour pas voir le ring, pas voir son ennemi. Vous, est-ce que vous baignez les yeux ouverts ou les yeux fermés ?
Les yeux fermés. C'est marrant, mais ça me parle beaucoup ce qu'il vient de dire. Quand j'avais fait ces portraits de personnages aux yeux bandés, j'essayais de représenter le peintre au travail. Parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment cette manière de dire, quand on rentre en création, on accepte de plonger à l'intérieur et de pas savoir ce qu'on va trouver. Donc il y a cette direction intérieure-là, qui est pas un aveuglement du tout, bien au contraire, mais c'est de voir autre chose, en fait.
Et vous peignez vraiment les yeux fermés ou c'est une façon
de
parler ?
C'est une métaphore.
Lorsqu'il parle de la manière dont la lumière peut venir, de la transparence ou des bas-fonds du tableau, là encore, c'est quelque chose qui est très présent dans votre peinture, la lumière évoluant au milieu de votre peinture. On ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle nous raconte, mais on sait très bien qu'elle est très, 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 très présente. Peut-être là encore plus que dans vos tableaux d'avant, Claire Tabouret. Est-ce que vous savez d'où elle vient ?
Elle vient d'en dessous, ça c'est sûr. Elle résiste à l'obscurité. Voilà, moi c'est la lumière que je peins, c'est ça. C'est une lumière qui est aussi en lutte, en combat contre l'effacement, la nuit, l'obscurité.
Le fait d'avoir, tout à l'heure vous parliez de votre exil de l'autre côté de l'océan, qui forcément change, j'imagine aussi, la lumière avec laquelle vous peignez. Est-ce que ça a changé des choses ?
J'ai aussi l'impression que ce changement est passé par mon rapport au temps et au mouvement, parce que c'est vrai qu'une des choses qui a changé concrètement, c'est d'avoir plus de place, à la fois beaucoup plus de place dans mon atelier, qui est plus grand, et puis plus de place dans la ville, dans les déplacements, dans les espaces entre les immeubles, dans les routes qui sont plus larges. Voilà, donc on a ce grand ciel au-dessus et on a toujours une sensation d'espace. Et donc les idées se déplacent autrement dans l'esprit. J'ai l'impression qu'il y a plus de place pour plus d'idées, presque. Et le corps aussi bouge autrement. Donc mon corps dans l'atelier, concrètement, ça veut dire que je peux travailler sur 40 toiles au lieu de travailler sur 4 toiles en même temps. Et donc il va y avoir une spontanéité aussi retrouvée, comme une spontanéité que j'avais perdue en cours de route. Et ça permet peut-être d'arrêter des instants lumineux à d'autres étapes du fait de ce mouvement-là constant dans l'atelier. Donc il y a des choses qui sont peut-être plus directes, il parlait de brutalité aussi tout à l'heure, voilà.
Vous travaillez souvent sur plein de tableaux en même temps ?
Oui, de plus en plus. Parce que déjà j'apprends d'une peinture à l'autre, et donc si j'arrive à faire monter plus de toiles ensemble, j'apprends encore plus de choses. Donc
Ça veut dire quoi, faire monter des toiles?
Ben, j'ai toujours l'impression, alors je prends encore une métaphore sportive, mais si on imagine un peloton de cyclistes, et que l'idée c'est qu'ils restent ensemble et de ne pas se retrouver perdus au fond. Donc j'essaie de jamais avoir un tableau qui se perd derrière le peloton. Donc si des fois ça arrive, je le ramène, et donc je le fais remonter dans le groupe. Et c'est assez intéressant parce que c'est des mouvements. Des fois, il y en a un qui part en tête, donc un tableau.
Il part en tête, ça veut dire que vous avancez, vous le voyez,
je découvre quelque chose dans lui. Voilà, d'un coup, j'ai cette idée du dédoublement, du quadruple corps. Et c'est génial et ça m'excite. Et du coup, je vais prendre le petit dernier qui est perdu en fin fond de peloton.
Et vous allez lui apprendre quelque chose.
Et je vais lui donner le truc du premier. Et donc, voilà. Il va repasser, il va doubler tous les autres. Et puis.
C'est un sport d'équipe, en fait, la peinture. Dans la grande solitude de l'atelier.
C'est un sport d'équipe tout seul, ouais. Mais en tout cas, c'est un sport en constant mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée aussi quand j'ai redécouvert les œuvres à l'extérieur de l'atelier, dans l'espace de la galerie, de me rendre compte à quel point le mouvement est présent dans cette exposition. Et que jusqu'à présent, dans mon travail, on était vraiment dans l'immobilité la plus totale, dans la paralysie quasiment, dans l'enfermement des corps. Et avec un côté très inquiétant dans cette immobilisation. Et je pense que pour moi aussi, en tant qu'artiste, c'est la pire des choses. Donc je suis en constant mouvement dans mon esprit, dans mon travail, dans mon corps, en suractivité parfois, mais parce que je pense qu'il y a aussi une fuite éperdue pour pas... Le danger, c'est l'immobilisation.
Et là, c'est très frappant, en effet, que la lutte, la danse, ou aussi l'étreinte amoureuse, dont on a peu parlé, mais il y a vraiment quelque chose qui, si au départ on entre avec un affrontement assez clair entre les corps, petit à petit, il y a des visages, là j'ai une représentation de tableau sous les yeux, mais il y a des visages qui nous apparaissent tellement calmes, presque dans le sommeil, dans l'immense tendresse, dans le câlin. Il y a des lutteurs qui parfois deviennent des sortes d'angelots même, qui flottent, comme si ce combat-là, il avait une sorte d'élasticité avec l'amour, quoi. C'est voilà, il a plein d'états, quoi.
Complètement, ouais. Et c'est en ça que la reprise d'un sujet est très intéressante, puisque ça permet d'avoir ces variations. Et c'est vrai que dans certaines toiles, il y a une immense tendresse.
Qui vous a surprise ?
Non, qui fait partie de. Je pense que c'est tous les états qu'on traverse. C'est comme si chaque peinture était une chanson d'amour. Donc il y a des chansons qui évoquent tous ces états-là. Il fallait aussi traverser ces états-là par la peinture.
J'ai pas la liste des titres, mais comme tout à l'heure vous disiez que c'était des propositions de narration qui étaient peut-être encore plus appuyées que d'habitude, est-ce que vous en avez en tête?
On a le temps. Un blanc.
On a le temps. On peut chercher.
Oui.
On pourra couper.
Alors, To the End. Donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de... dans cette toile-là, qui est une toile, pour le coup, assez violente, où les deux corps ont pris de l'élan dans un champ. On a l'impression que c'est comme deux taureaux qui courent et qui se chargent. Et donc là, la fin est proche. Il y en a une autre qui s'appelle Dans ses bras, et qui a un peu d'humour, pour le coup, puisqu'il y a un personnage qui est en train de faire une clé de bras à un autre, et de lui tordre le visage, presque en lui indiquant la direction dans laquelle regarder. Donc il y a aussi cette ambiguïté-là de l'étreinte amoureuse qui peut se transformer en enfermement. Il y en a une autre qui est appelée les amants indissociables, où c'est vrai que c'est ces deux corps qui n'ont qu'une tête, et la tête est un sourire très doux. Donc elle est... c'est pas une toile inquiétante, c'est presque la passion amoureuse.
Je fais pas de maquettes, de prédessins, de choses préparatoires. C'est-à-dire que je travaille directement sur le format. Donc ça, ce sont des grands formats. Et a priori, je m'accorde pas de repentir. C'est-à-dire que le travail est réalisé dans le moment, c'est-à-dire avec le temps qu'il faut. Et ensuite, les choses où je les garde, où je les garde pas.
Ah oui.
Ouais.
Y a pas de... Vous n'avez pas donc de brouillon, d'esquisse, de tâtonnement comme ça.
Non. Et puis j'aime bien cette espèce d'urgence aussi et de se dire voilà, les choses sont là. C'est une grande concentration à un moment donné. Avant, les choses peut-être arrivent par nécessité, par rêverie, par image que je, enfin pas image mais comment dire. C'est pas des flashs parce que c'est ridicule, mais il y a des voilà, j'ai quelque chose en tête et il faut qu'il soit sur le papier, quoi. Mm-hmm.
Donc, en fait, le moment où vous commencez à dessiner, vous savez que la fin va arriver, quoi, une heure, deux heures après. Vous mettez combien de temps pour faire ça ?
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mm-hmm. Dans le moment où je commence à dessiner, je sais que je suis dedans complètement et voilà, quoi.
On a toujours un peu peur ou très peur avant de commencer en anglais. Et j'adore cela, ça s'appelle avoir le butterfly. Et je crois qu'avec le temps qui passe, la peur grandit.
Ce sont deux voix d'artistes, Françoise Petrovitch et Chantal Ackermann, dans un documentaire Surpris par la nuit, diffusé sur France Culture, Claire Tabouret. Pour terminer tranquillement cet entretien et parler avec vous du début et la fin, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il me semble que dans ce que dit Françoise Petrovitch, de savoir à la fois l'espèce de peur de commencer, aussi chez Chantal Ackermann, mais aussi l'indétermination de pourquoi ça commence. Avec ces quelques années de peinture, quand même, que vous avez derrière vous, vous savez pourquoi ça commence. Tout à l'heure, vous disiez un désir de rouge, de orange.
Je pense que ça commence bien avant. Ça a commencé il y a très longtemps. Et ça, en fait, j'ai l'impression d'avoir été traversée par la peinture, d'avoir vraiment une vocation, d'être entrée en peinture, comme certaines personnes parlent d'être entrées en religion. Donc, ça commence à ce moment-là. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement addictif. Il y a un rapport au manque. C'est-à-dire que quand... Très vite, quand j'ai compris que c'était la peinture, il y a le manque qui s'est installé. Et donc ensuite, ça commence beaucoup par le manque. C'est-à-dire que la remise au travail, quasiment tous les matins, vient du manque de pas être en train de peindre. Et puis ensuite, la question de la peur, c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi en ce moment, puisque c'est vrai que c'est une vie intranquille. Et je me dis, mais qu'est-ce qui pousse à toujours se remettre comme ça, dans cette intranquillité-là? Est-ce qu'il n'y a pas une addiction aussi à la peur? Quelque chose de tellement excitant. Là, je suis terrifiée à l'idée de parler, et en même temps, je suis quand même venue. Et donc, je pense parce que ça fait naître aussi des mots, ça fait naître des idées, ça va faire naître une nouvelle peinture. Et donc, c'est toujours de se pousser vers l'avant, encore cette idée du mouvement.
Ça veut dire quoi, entrer en peinture, comme entrer en religion? Vous avez même dit, j'étais traversée par la peinture, mais c'est-à-dire par la matière, par la lumière, par la possibilité de dire quelque chose?
Ouais, un peu tout ça. Je pense que la première chose, c'est ce rapport extrêmement familier, comme s'il avait fait partie de moi dans une vie antérieure. Ça peut paraître dingue, mais de ce rapport au fer, quoi, rapport très tactile avec ce geste-là. Donc, c'est le prolongement de ma main, c'est le prolongement de ma pensée. Et c'est comme ça que je peux traverser le monde. Et donc,
depuis
l'enfance. Et puis ensuite, il y a aussi c'est presque le besoin de vider quelque chose. C'est-à-dire que le monde, je traverse le monde avec chacun a un regard sur le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce regard? Comment est-ce qu'on le communique aux autres? Et moi, c'est ma manière à moi. Et si jamais j'arrête de le faire, eh ben, il y a un trop plein. Et donc, je me noie sous mes propres visions, mes propres pensées. Et donc, il faut régulièrement, vider ce seau pour pouvoir, puisqu'il se remplit tout seul, en fait.
Il y a quelques jours, Pierre Guyotat parlait justement de sa très 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 grande sensibilité, la manière dont tout arrivait à lui d'une manière radicale, et tout s'imposait à lui pendant un laps de temps, sans nuance, sans recul, quasiment comme un nourrisson. Sa peau était poreuse, son esprit était très 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 sensible. Et il disait, c'est dans ces minutes-là, je le cite très mal, il faudrait écouter l'émission, mais c'est dans ces minutes-là que je suis artiste.
J'aime beaucoup Pierre Guyotat. Mais c'est vrai qu'après, ce qui est important, je pense, c'est de trouver des espaces pour vider son seau. Et donc, pour moi, ça va être très rapidement, ça a été l'idée d'avoir un espace d'atelier. Et j'ai mis de nombreuses années avant d'avoir cet espace-là. Mais c'est vraiment la chambre à soi que décrit Virginia Woolf qui permet de survivre à ce trop-plein et qui peut frôler la douleur, la folie. Donc, chez d'autres, ça va être l'écriture. Donc c'est un espace, un autre espace.
Mais quand vous dites vider son seau, c'est pas exactement la même chose que d'adresser de la peinture aux autres. Pour vous, c'est uniquement vider son seau?
Non, parce que vous avez raison, c'est la question du regard. Et en plus, dans mes œuvres, je me suis beaucoup attachée à appeler le regard du spectateur et à engager avec le spectateur dans cet échange, dans cette confrontation entre la peinture et le regardeur. Et donc, c'est tout à fait, on peint pour quelqu'un. Ça, c'est l'autre chose dont je me suis rendu compte, et particulièrement avec cette exposition-là. C'est pour ça que pour moi, la création est très liée à l'amour, en fait. Et donc, ça peut être pour certains l'amour, un amour spirituel, ça peut être un amour charnel. L'objet de l'amour prend voilà, diverses formes, mais en tout cas, je crois... Et notamment quand on réfléchit encore une fois au chant, à la chanson, souvent les gens chantent pour quelqu'un en particulier et ensuite ça touche quelque chose d'universel et on va tous se retrouver dedans.
Donc ça veut dire que par exemple cette exposition « I'm crying because you're not crying », elle est adressée, d'abord adressée?
Je pense que le début, oui, il y a toujours, c'est dédié à quelqu'un et puis de là, moi-même, je tombe dans quelque chose qui est plus grand que moi. Et heureusement d'ailleurs, c'est là où ça devient excitant, intéressant et c'est là où ça me maintient aussi dans une énergie vitale.
Justement, j'allais y venir à cette énergie vitale parce que c'est comme ça qu'on a commencé l'émission en parlant de Rachida et se posant simplement la question de savoir est-ce qu'on arrête de lutter quand le cœur s'arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui simplement baisse les bras? Moi, en tout cas, il me semble que dans cette exposition-là, Claire Tabouret, il y a vraiment une mise en circulation très généreuse de l'énergie vitale. Quand vous parliez d'adresser à quelqu'un, on se sent pris dans une peinture qui nous fait cadeau de ça.
Ben merci.
Elle a jonché d'or et de jade ma routine. Elle a jonché de sapalin et tant de larmes. Et l'ampleur m'a fait me fissurer. Oh, de la vie. Oh, de la poésie. Oh, de la parodie. Petit baigneur, fais des longueurs à longueur d'odyssée. Brasse, petit vernis, à bras raccourcis. Brasse.
Au son ce soir, c'était Philippe Mercher à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez trouver la liste des musiques qui sont diffusées, toutes les émissions qu'on peut réécouter, les références d'archives, aussi les références vers les livres et les expositions. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de France Culture, et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup à Lou Quevauvillier, Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos et Marianne Chassor. Ils m'aident à préparer et à penser cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée.
Polissons ces gravillons. Oh,
oh, dans la vie. Oh, dans la poésie. Oh, dans la parodie.
Je fais la noce avec Yasmina. Je divorce avec la grande ours, aux équinoxes, il arrive que je fonce.
Oh, ta vie, oh, ta poésie, oh, ta presbytie. Aux orties, le ciel de réunion.